Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 20 Shahrivar, 1401 du calendrier iranien, 11 septembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Début du processus de l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Iran rejette la déclaration non constructive de la Troïka européenne et l'appelle à en assumer la responsabilité. Le corps des gardiens de la révolution islamique a saisi un pétrolier transportant du carburant de contrebande dans le golfe Persique. Et des millions de pèlerins convergent vers la ville sainte de Karbala pour la commémoration annuelle d'Arbaïn en Irak. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran rejette une déclaration de trois pays européens partenaires dans les négociations de Vienne, la qualifiant de non constructive. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il était regrettable que les trois pays européens signataires de l'accord de 2015, à savoir la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, aient publié une telle déclaration. Nasser Kanani a mis en garde les trois pays européens contre le fait d'agir en faveur des intérêts d'Israël et d'emboîter le pas au régime d'occupation qui tente à toute occasion de faire dérailler les pourparlers de relance de l'accord nucléaire. Selon lui, le déroulement des négociations en plusieurs étapes avait été le fruit des initiatives de la République islamique d'Iran avant de mettre en garde contre les tentatives malveillantes et destructives des parties tierces. le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré avoir saisi un navire étranger transportant quelque 757 000 litres de diesel de contrebande. Un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que le navire voulait faire passer le carburant vers un autre pays. Il a ajouté que les 7 membres de l'équipage étaient tous des ressortissants étrangers et ont été remis aux autorités judiciaires. La lutte contre la contrebande fait partie des priorités des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique. Depuis mars, plus d'1,5 million de litres de diesel de contrebande ont été saisis par les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique. Des millions de pèlerins venus du monde entier convergent vers la ville sainte de Karbala en Irak pour la commémoration annuelle d'Arbaïn. Les pèlerins, dont beaucoup venus d'Iran, font le voyage vers Karbala à pied. La ville abrite le sanctuaire du vénéré Imam Hussein, petit-fils du prophète. Cette année, le pèlerinage, qui est l'une des plus grandes congrégations religieuses au monde, atteindra son apogée le 17 septembre. Le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, Ismaïl Haniyeh, est arrivé à Moscou pour s'entretenir avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Haniyeh dirige une délégation de haut rang du Hamas. Moscou a invité Ismaïl Haniyeh à se rendre en Russie pour discuter des liens mutuels et d'autres questions, y compris la situation en Palestine. Une délégation du Hamas s'était déjà rendue en Russie au mois de mai, dans un contexte de tensions accrues dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Quds orientale et à la mosquée Al-Aqsa. Le déplacement intervient au milieu de tensions accrues entre la Russie et Israël, en raison du soutien du régime sioniste à l'Ukraine et des attaques répétées d'Israël contre la Syrie. Les Palestiniens sont soumis à des centaines de crimes et exactions israéliennes, devenues presque quotidiennes, tels que des raids sur des bâtiments et des lieux saints, ainsi que des prises d'assaut et des démolitions systématiques de maisons. Les opérations israéliennes ont été qualifiées par de nombreux groupes de la défense des droits de l'homme de crimes de guerre, car elles violent toutes les lois et conventions internationales. Les tensions restent ainsi vives dans les territoires occupés, alors qu'Israël intensifie la répression contre les Palestiniens. Les forces du régime sioniste ciblent régulièrement et systématiquement les civils. Un grand nombre de personnes ont été tristement tuées et blessées durant 3 jours de bombardement par le régime d'occupation lors d'une récente offensive sur la bande de Gaza sous blocus depuis 2007. En Ukraine, les activités de la centrale nucléaire du pays ont été complètement arrêtées. L'Ukraine a annoncé dimanche la mise à l'arrêt du 6e et dernier réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, et occupée par les forces russes. L'agence d'État en charge de l'installation a déclaré avoir déconnecté l'une des unités électriques du site pour des raisons de sécurité, ce qui a entraîné l'arrêt des opérations de la centrale électrique. Selon l'opérateur ukrainien, des préparatifs sont en cours pour refroidir l'usine. Il y a quelques jours, Kiev a demandé aux résidents de la région d'évacuer les zones tenues par les Russes autour de l'installation pour leur propre sécurité. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de risquer une catastrophe nucléaire en bombardant la centrale. l'Organisation des Nations Unies a appelé à la démilitarisation de la zone autour de la centrale, seul moyen selon l'organisation d'en assurer la sécurité. La Russie, qui a accepté l'accès de la mission internationale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la centrale, insiste qu'elle veut empêcher les affrontements si dangereux autour de la zone, sans pourtant reculer face à un Occident qui cherche à tester la détermination de Moscou. Et enfin, en Suède, les gens se rendent aux urnes pour les élections législatives. Les sondages opposent les sociaux-démocrates au pouvoir à une alliance inédite entre la droite et l'extrême droite anti-immigration. Depuis des semaines, tous les sondages vont dans le même sens. Les résultats s'annoncent très serrés. En attendant, un parti sort déjà largement vainqueur de cette campagne inédite. Fondé par d'anciens fascistes en 1988, le Parti démocrate de Suède est crédité d'une deuxième position derrière les sociaux-démocrates avec plus de 20% des intentions de vote. Mais la formation d'extrême droite se retrouve aux portes du pouvoir, dédiabolisée par la droite libérale conservatrice, prête à en faire sa force d'appoint au Parlement pour assurer son retour au gouvernement après 8 ans dans l'opposition. Le Parti social-démocrate est au pouvoir depuis 2014, mais sa popularité est en baisse. Lors de la campagne électorale actuelle, les partis se sont battus pour être les plus durs contre la criminalité des gangs. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que le processus d'adhésion de la République islamique d'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai commencera lors du prochain sommet de cette organisation en Ouzbékistan et qu'un mémorandum sur les engagements de Téhéran sera signé afin d'obtenir le statut de membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai. Selon l'agence de presse Eurasia Today, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé que le processus d'adhésion de la République islamique d'Iran et de la République de Biélorussie à l'Organisation de coopération de Shanghai commencera lors du prochain sommet de l'organisation en Ouzbékistan. La diplomate a déclaré « Il est prévu qu'un certain nombre de décisions prometteuses soient prises lors du sommet de cette année. Il est également prévu que le processus d'acceptation de la République islamique d'Iran et de la Biélorussie dans les rangs de l'Organisation de coopération de Shanghai commence. » Selon ces informations, il est prévu qu'au cours de la réunion des dirigeants de l'organisation à Samarkand, un protocole d'accord soit signé sur les obligations de la République islamique d'Iran en vue d'obtenir le statut de membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui permettra à Téhéran de se référer aux documents relatifs à l'établissement et aux traités internationaux de cette organisation, et ainsi l'Iran deviendra membre à part entière de cette organisation. Il a été signalé précédemment que la Biélorussie avait demandé à devenir membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cela a été annoncé par Vladimir Nourov, chef du service diplomatique de l'Ouzbékistan. En outre, des notes ont été préparées pour officialiser le statut de partenariat de dialogue de cette organisation pour des pays comme l'Égypte, le Qatar et l'Arabie saoudite, et le processus d'octroi de ce statut à Bahreïn, aux Maldives et un certain nombre d'autres pays va commencer. En outre, les dirigeants de la Turquie, de la République d'Azerbaïdjan, du Turkménistan et de l'Arménie ont été invités à ce sommet. Il convient de rappeler que la réunion des dirigeants des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai se tiendra les 15 et 16 septembre à Samarkand, en République d'Ouzbékistan.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Alors, il semblerait que les tensions anti-Israël du Hezbollah libanais concernant l'affaire de Karij ne cessent d'augmenter contre le régime sioniste. D'un autre côté, il semblerait que le fait que l'Ansar Allah, le mouvement de résistance populaire yéménite, ait acquéri en fait l'autosuffisance dans la production des missiles sous mer a semé la panique d'autant plus au sein du régime sioniste, d'où ce renforcement de ses forces dans le nord des territoires occupés, de la Palestine occupée. Alors dans cette conjoncture, dans la situation actuelle, avec toutes ces mises en garde de part et d'autre, d'un côté le Hezbollah, d'un autre côté l'Ansar Allah, que devrait-on s'attendre dans les jours à venir? On en débattra, on en parlera avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Des sources sionistes ont rapporté que l'armée de ce régime, craignant une confrontation avec le Hezbollah, a commencé à former une milice dans le nord de la Palestine occupée, dont les forces sont censées être une sorte de bouclier pour les soldats israéliens. L'armée israélienne a renforcé ses mesures de sécurité sur le front nord par crainte d'une confrontation avec le Hezbollah. Cependant, certaines de ces mesures révèlent des scénarios et des estimations plus dangereux de la part des autorités militaires israéliennes. L'armée israélienne a décidé de former un groupe de miliciens dans la colonie de Kiryat Shmona. Ses membres seraient équipés d'armes, de boucliers et d'appareils de communication avec une formation pour fournir les premiers soins médicaux. Cette nouvelle action d'Israël signifie que son armée s'attend à l'éclatement d'une confrontation avec le Hezbollah et surtout l'unité spéciale Rezvan de la résistance. Cela a été confirmé par l'agent de sécurité municipale de la colonie, Ari Dekel, qui a exprimé sa compréhension du besoin opérationnel de cette formation eu égard aux évolutions au nord et aux menaces d'infiltration des combattants du Hezbollah dans des colonies de peuplement. Cela signifie que les dirigeants sionistes ont accepté le fait qu'en cas du déclenchement de toute bataille, la réponse du Hezbollah ne se limitera pas aux tirs de missiles vers la Palestine occupée, mais elle inclura également une confrontation directe entre les militaires de l'unité Rezvan affiliés au Hezbollah, l'armée israélienne et les colons dans la région de Galilée. Cette affaire prouve aussi aux sionistes que la présence de l'armée aux frontières n'empêchera pas la résistance de mettre ses menaces à exécution si Tel Aviv continue de bafouer les droits des Libanais.
En effet, cette panique du régime sioniste consisterait à faire face à une confrontation militaire, non seulement avec le Hezbollah libanais, mais également avec l'Ansarallah yéménite. Alors, qu'en est-il de la situation actuelle au sein du camp israélien? On en parle avec nos deux invités, Habib Tawa, analyste politique qui est avec nous depuis Paris, mais également Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour, Monsieur Tawa. Merci d'être avec nous pour ce débat, pour cette émission du jour. Alors, qu'en pensez-vous de cette affaire, surtout de cette affaire de Karish, dans laquelle le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, n'a cessé de mettre en garde le régime sioniste contre tout agissement dans cette région importante pétrolifère?
Vous faites bien de rappeler, bonjour madame, merci de nous recevoir. Je tiens à rappeler les éléments de l'affaire. Les Israéliens exploitent déjà plusieurs champs au large de la Palestine occupée et ils ont décidé de pousser la ligne frontalière, disons les eaux territoriales, entre le Liban et cette région plus haut que les Libanais ne voudraient. Il y a donc eu des négociations depuis plusieurs années. Celles-ci ont été théoriquement par les Américains qui sont censés être des intermédiaires, mais dont le délégué Amos Hochstein jouit de la double nationalité israélienne, puisqu'il est né en Israël en plus, et américaine. Ils sont donc à la fois juge et partie. Ce monsieur fait traîner les négociations depuis longtemps, et dans l'intervalle, il y a un champ qui est situé au-dessus de ce qu'on appelle la ligne 29, qui est revendiqué par les négociateurs libanais, et dans lequel ils ont amené trois barges pour pomper le pétrole. Alors, le 13 juillet, Nasrallah a fait un discours tonitruant dans lequel il a dit « Vous ne pouvez pas d'abord pomper notre pétrole et surtout nous empêcher de pomper notre pétrole. » Parce que par l'intermédiaire de leurs alliés en Occident, en particulier en France, les Israéliens sont parvenus à empêcher la société Total, qui était à la tête d'un conglomérat, de pomper le pétrole ou le gaz au large du Liban. Donc vous ne pouvez pas nous laisser mourir de soif et de faim dans un pays qui est en crise, qui est au bord de la ruine, alors que vous plastronnez, vous envoyez du gaz en Europe, au moment où les Européens se sont coupés du gaz russe. Donc voilà la situation. Et il a dit, tant que vous nous empêcherez de vivre, nous vous empêcherons de pomper votre gaz. Et donc, nous attaquerons non seulement cette exploitation en puissance qui s'appelle Karish, et au-delà de Karish, c'est l'expression de Nasrallah. Donc, nous n'accepterons pas et nous donnons en ultimatum la fin du mois d'août ou le début de septembre. Et nous sommes en début septembre. Voilà l'état de la crise actuelle. Qu'est-ce qui va se passer? On va en parler si vous voulez.
Merci, merci beaucoup pour vos explications. Restez en ligne. Luc Michel, géopoliticien, est également avec nous depuis Bruxelles. Alors Luc Michel, comment analysez-vous la situation? Ces mises en garde du Hezbollah, d'une part, la démonstration de force terrestre et aérien, mais également dans les mers d'Ansarallah contre le régime sioniste, d'un autre part. Et comment pourrait-on interpréter tout ceci?
Tout d'abord, bonjour à M. Tawa et à votre équipe. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère géopolitique. Il n'y a pas seulement la montée en puissance de l'axe de la résistance et la panique des Israéliens, il y a également la réaction des Américains d'un côté. Ils ont adopté un nouveau train de sanctions. Ils sont très inquiets de la collaboration dans le cadre du dossier ukrainien entre la Russie et l'Iran, notamment la fourniture de drones. Il y a de nouvelles sanctions qui visent des firmes iranienne qui livre cette rose à la Russie. Mais il y a également le fait que la Russie a une position d'hostilité envers Israël pour son soutien au régime de Zelensky en Ukraine et d'amitié pour l'axe de la résistance, puisque aussi bien les dirigeants du Hezbollah que ceux d'Ansarallah ont été reçus à Moscou. Tout cela, évidemment, change les données, mais il faut s'attendre à un renforcement de l'hostilité, non seulement israélienne, mais américaine. Tout est fait pour saboter la reprise des négociations sur le nucléaire iranien. Et parallèlement à cela, évidemment, aussi bien la presse israélienne que Anthony Blinken, ils évoquent de plus en plus que toutes les options, c'est-à-dire une frappe préemptive sur l'Iran, sont sur la table.
Merci pour vos explications. Alors, Monsieur Taba, vous avez donné une analyse de la situation actuelle, mais à votre avis, à quoi devrait-on s'attendre après ces mises en garde, après cette montée en puissance d'un Sarala yéménite? Les deux pays, à savoir le Liban et le Yémen, sont des pays stratégiques, aussi bien par leurs voisins que par leurs alliés stratégiques dans l'axe de la résistance. Donc, à quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines et les mois à venir?
D'abord, pour compléter ce que j'ai dit, oui. La date limite était, comme on a dit, le début septembre. Nous sommes déjà, je crois, le 8 septembre. Donc, le Hezbollah a laissé passer les dernières négociations qui étaient en cours. Amos Hochstein est passé début août au Liban en prétendant revenir au bout de deux semaines. Il est arrivé hier, vendredi 8, je crois. Il est arrivé à Beyrouth et il a délivré un courrier dont on ignore le contenu au président de la Chambre et au président du Conseil. Et il est reparti dans un intervalle de deux heures. Ça ressemble beaucoup à une forme d'ultimatum. Et c'est pour ça que les choses commencent à bouger depuis maintenant. Parce que le Hezbollah, qui a laissé passer en se disant peut-être que les négociations aboutiront, se trouve dans la position où il doit agir ou faire quelque chose. L'intrusion, comme vous venez de dire, ou bien l'aide des Ansarullah dans ce contexte, met un nouvel élément de pression contre Israël. Est-ce que ce nouvel élément les conduira à reculer, ou bien cela conduira-t-il à une confrontation? Dans les plans du Hezbollah, il est dit, comme l'a dit Nasrallah, que s'ils n'étaient pas d'accord, ils taperaient Karish, et pour ce faire, ils ont montré des missiles, ils ont montré des photos qui ont été prises par des drones libanais. Ils ont montré qu'ils avaient tous les moyens de taper. Et il a dit, je taperai aussi au-delà de Karish et dans le territoire israélien. Ce qui signifie que, d'une part, il pourrait taper les autres plateformes pétrolières, et d'autre part, il pourrait éventuellement intervenir en Galilée. Et ça, c'est une option qui date depuis un certain temps. Et visiblement, comme a dit votre présentateur au début, les Israéliens s'attendent effectivement à une pénétration éventuelle de Hezbollah si l'opération, si le combat a été fait. Et le fait de se replier sur des colonies les ramène finalement à l'état d'Israël initial, où il y avait des colonies qui se battaient et n'avaient pas d'unité. Donc c'est pour eux assez grave comme situation. Et ce serait aussi grave pour le Liban, parce qu'il ne faut pas oublier une chose que l'on ne rappelle jamais, c'est que l'explosion de Beyrouth en 2020, le 4 août 2020, et le fait d'un attentat israélien que tout le monde essaye de dissimuler, chacun pour sa raison. Et donc Israël montre une violence extrême. Et je rappelle ici les propos de Shimon Peres, l'ancien premier ministre israélien, qui était l'homme de tout et de partout en Israël, qui avait dit « It's them or us » en 2006. C'est eux ou nous. Donc les Israéliens ne veulent pas faire de compromis et tiennent à mettre à genoux le Liban, qui est déjà très amoché du point de vue économique. Donc c'est une confrontation très grave et j'espère que le Liban pourra en sortir. Voilà.
Merci pour vos explications. Reste en ligne, Monsieur Tawa. Alors, Luc Michel, à votre avis, avec ces mises en garde, cette montée en puissance d'un Sarala, les alliés de ces deux pays, à savoir l'Iran, mais aussi les autres pays de l'axe de la résistance, qu'en vient le dire Monsieur Tawa, est-ce qu'il y a risque de confrontation entre le régime sioniste et ces pays, mais aussi l'axe de la résistance en général?
Moi, je crois qu'on se dirige vers une confrontation massive, parce que aussi bien les Américains que les sionistes sont paniqués. Ils sont paniqués par les résultats de la montée en puissance de l'axe de la résistance, par la participation de l'Iran à un front anti-américain qui unit la Russie, le Venezuela, mais aussi d'autres pays sous sanctions. On a appris ces jours-ci qu'au côté de l'Iran, la Corée du Nord allait fournir des armements à la Russie. Il y a donc une panique. Et la panique s'accompagne également des conséquences de la guerre économique et de la guerre des hydrocarbures, puisque, contrairement à ce qu'espéraient les Américains, il n'y a pas d'isolement de la Russie, mais au contraire un front mondial autour de la Russie pour combattre l'hégémonie américaine et dédollariser le monde.
Et aussi, Luc Michel, je m'adresse toujours à vous. En ce qui concerne cette crise énergétique que l'Europe subit après cette guerre russo-ukrainienne, est-ce que ces agissements dans l'affaire de Karich, dans la zone contestée de Karich, pourraient également être liés en quelque sorte avec cette crise énergétique, ce casse-tête européen ?
Elles sont liées directement. La fourniture de gaz israélien, y compris celui volé au Liban, est une partie de la stratégie européenne. Les Européens ont échoué dans la guerre des gaz. Le maître des horloges, c'est Poutine. Ils veulent plafonner les prix des hydrocarbures. La Russie ne va plus les fournir. Elle est en train de plonger l'Europe dans un hiver glaciaire. Et les stratégies de remplacement se sont révélées stupides. C'est-à-dire que les Européens comptaient sur les Iraniens, sur les Algériens, sur le Sénégal, c'est-à-dire sur les Vénézuéliens, tous des alliés de la Russie, pour remplacer les fournitures de celle-ci. Ça ne marchera pas. Donc les Européens se tournent désespérément vers ceux qui pensent être des alliés, notamment les Israéliens.
Habib Tawa, quelle est votre analyse à ce sujet ? Est-ce que cette crise énergétique serait en quelque sorte liée à ces mises en garde, surtout aux agissements israéliens dans la zone de Karich ? Est-ce que l'axe occidental, l'axe US-OTAN-Israël cherche à tout prix de s'emparer du pétrole de cette région, mais aussi d'autres régions du monde, bien sûr en Syrie, on a vu l'exemple depuis des années, depuis cette crise syrienne déclenchée par l'Occident. Est-ce que cette affaire aussi serait liée en quelque sorte à cette crise énergétique dont fait face l'Union européenne ?
Je pense que malheureusement la situation est un peu différente. Les Américains utilisent cette affaire russe pour mettre à genoux l'Europe. Parce que les Américains continuent à acheter du pétrole russe alors qu'ils forcent les Européens, leurs sujets européens, parce que c'est des sujets, ce n'est pas des États indépendants, à ne plus acheter de gaz russe. C'est assez aberrant comme situation. Et donc, moi, je m'inscris en tort à l'analyse qui prétend qu'ils voudraient récupérer à partir du gaz israélien. Les Américains seront très contents que les Européens n'aient pas de gaz. Ils veulent les étrangler, les étouffer, les mettre à genoux. Ils profitent de cette guerre avec la Russie pour le faire. Mmh. Et malheureusement, les prétendus chefs d'État européens sont des marionnettes des États-Unis.
Bien
donc,
sûr.
Donc je crains beaucoup que l'équation ne se joue pas dans ce sens. L'équation se joue dans le sens qu'il y a des résistances à l'intérieur de l'Union européenne, qu'on a vu dans les dernières manifestations qui ont eu lieu en Europe, d'opposition profonde contre la misérabilisation de l'Europe qui a été décidée par les États-Unis et par certaines élites européennes.
Monsieur Michel, à votre avis, alors, dans tout ce qui se passe en ce moment dans la région et ce risque de confrontation, est-ce qu'on pourrait dire que Israël, les États-Unis en général, l'axe US, Israël, l'OTAN, se sont pris dans leur propre piège, ce piège tendu au Moyen-Orient, aux pays de l'axe de la résistance, et en fin de compte, ils sont tombés dans leur propre piège?
Ils sont dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue. Mais je suis d'accord avec M. Tawa, c'est-à-dire que l'agenda de Bruxelles et l'agenda de Washington sont deux choses complètement différentes. Lorsqu'ils ont engagé la confrontation avec la Russie sur le dossier ukrainien, les Américains avaient deux buts de guerre. Le premier but de guerre, c'est détruire la puissance russe, mais le second but de guerre, c'est fracturer les économies européennes. Il faut pas oublier qu'il y a une contradiction interfondamentale dans le bloc américain, c'est que l'allié géopolitique principal, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est l'adversaire économique principal dans la guerre économique Europe-USA qui a commencé dans les années Reagan en 1980 et la guerre financière du dollar contre l'euro. À partir de ce moment-là, effectivement, les stratégies européennes pour supplier les productions russes ne sont absolument pas supportées par les États-Unis. Seulement, parallèlement à cela, les Américains n'ont rien refusé aux sionistes. Le lobby PAC est un élément essentiel, aussi bien pour les démocrates et les républicains, mais pour la levée des fonds électoraux dans les futures élections de mi-mandat. À partir de ce moment-là, les Américains, quelle que soit leur volonté d'affamer et de briser l'économie européenne, ils n'empêcheront pas les Israéliens de voler le gaz libanais. Tout cela est lourd de confrontations, évidemment, puisque les gens dans Sarala, évidemment, ne sont pas décidés à les effrayer.
Merci pour vos explications. Alors, Habib Tava, à votre avis, vous avez évoqué le fait que les pays européens sont des marionnettes des États-Unis et suivent en fait les dictats. Oui, les dictats occidentaux, les dictats des États-Unis. Jusqu'où ce suivisme aveuglé continuera-t-il, Monsieur Tawa, de la part des pays européens vis-à-vis des États-Unis?
C'est pas les pays européens, c'est les dirigeants des pays européens. La population ne suit pas. Bien sûr. Le voit dans beaucoup de manifestations, dans beaucoup de réactions populaires.
Oui, bien sûr.
Et au niveau des élites, même de certaines élites qui ne sont pas au pouvoir. Et moi, je crains que. Il faut comprendre que tout ça s'inscrit dans le plan de Davos qui voudrait baisser le niveau de vie de toutes les populations en Occident et puis ensuite dans le reste du monde. Donc dans ce sens-là, les élites européennes fonctionnent comme ça, mais le peuple européen, même les sociétés européennes n'ont pas intérêt à ce qui se passe. Ce qui fait qu'on est dans une situation très très complexe. Et pour reprendre le cas, moi, où je ne partage pas du tout l'analyse de Nasrallah, les Européens veulent que ça leur est égal qu'il n'y ait pas de gaz pour l'Europe. C'est pour cette raison qu'on ne pompe pas non plus le pétrole libanais. Faute de quoi, on prendrait du pétrole aussi du Liban et du gaz aussi du Liban. Si on ne le prend pas, c'est qu'on veut étrangler le Liban. Et là aussi, il y a des déclarations de Fetterman, qui était l'ancien ambassadeur au Liban, à la suite de la guerre de 2006, qui a été une déculottée pour les Israéliens. Il a dit à une chambre du Congrès américain, il a dit la solution au Liban, il ne faut pas les confronter de face, il faut les étrangler peu à peu. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons se passer. On enlève de plus en plus des éléments au Liban, on a ruiné l'économie en retirant la confiance aux banques, on a mis une bombe à Beyrouth. Je tiens à cette histoire de Beyrouth en 2020. C'était une bombe israélienne. Et tout le monde le cache, tout le monde le dissimule. On a vu les effets d'une bombe. C'est une bombe nucléaire qui a été jetée à Beyrouth. Et ça, tout le monde le dissimule, il ne veut pas le dire. Il y a eu un ou deux politiciens libanais qui l'ont dit, dont un ancien ministre de l'Intérieur. Et puis ensuite, on a fait taire tout le monde. Donc le Liban est un pays agressé. Et il faut le dire. Et c'est comme ça que l'on comprend la réaction de Nasrallah qui dit, il a dit dans son discours, je préfère mourir dans la dignité que de croupir dans la misère.
Oui, bien sûr. Monsieur Michel, nous avons près de 2 minutes devant nous. Le mot de la fin est à vous, mais également cette question à vous. Jusqu'où ce suivisme de l'Union européenne, des gouvernements bien sûr européens, se poursuivra-t-il vis-à-vis des dictats et des politiques des États-Unis?
Il se poursuivra jusque dans le gouffre. Le grand géopoliticien européen, le général Jordi Thorlauson, qui est disparu il y a quelques années, au moment des guerres de Yougoslavie et d'Irak, avait écrit un livre où il expliquait que la participation des politiciens sionistes aux guerres américaines en Irak et en Yougoslavie était une trahison profonde des intérêts à long terme de leur peuple. C'est tout à fait exact. Ces gens sont des traîtres, mais ils doivent leur pouvoir à leur soutien à l'atlantisme. Tous les gouvernements européens sont issus de 1944-45, quand les Américains ont installé en Europe de l'Ouest des régimes à leur mode. Le seul qui s'est écarté de cela, c'est le général de Gaulle dans les années 1960. Mais cela est terminé aujourd'hui. Les Français sont parmi les politiciens les plus atlantistes. Aujourd'hui, les populations européennes commencent à se révolter contre ces atlantistes. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Tchécoslovaquie, C'est le cas en Allemagne. C'est le cas en France. Il y a eu des manifestations à Pau et à Marseille. Et aujourd'hui, les gilets jaunes sont de retour dans les rues de Paris. Personne n'en parle dans les médias mainstream parce qu'évidemment, il y a un silence pesant là-dessus. Il faut retenir que ces gens sont en train de précipiter l'Europe dans la récession économique, dans la ruine de son industrie et de son économie, mais surtout les populations européennes dans la misère.
Merci à vous deux, nos deux analystes, pour ce débat. Luc Michel, géopoliticien, était avec nous depuis Bruxelles. Habib Tawa, analyste politique, était avec nous depuis Paris. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour une autre émission de débat de Presse TV français. En ce samedi 10 septembre, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
$1,123,700 passagers enregistrés par les aéroports de Côte d'Ivoire durant les 7 premiers mois de 2022. 1,123,700 passagers ont transité par les aéroports de la Côte d'Ivoire au cours des 7 premiers mois de 2022. Ceci équivaut à une évolution de 37% du débit d'activité enregistré de janvier à juillet 2021. Cette performance a été portée par le trafic passager commercial qui a connu une hausse de 37,9% et le nombre de voyageurs en transit dont le niveau de progression a été de 29,2%. Le mouvement des passagers les plus réguliers ont été faits à destination des pays de la CEDEAO avec 361 524 voyageurs enregistrés au cours de la période. L'Europe occupe la deuxième position des destinations les plus fréquentées en partant des aéroports ivoiriens avec 343 942 voyageurs suivis des autres pays de l'Afrique n'appartenant pas à l'espace CEDEAO. Les indices du fret aérien ont également été positifs avec environ 22 352 tonnes de marchandises traitées durant la période indiquée. Les aéroports ivoiriens pourraient égaler la performance de 2019 où les flux annuels globaux s'établissaient à 2 271 700 passagers. Au Mali, Estar Oil réclame plus de 36 milliards de francs CFA à EDMSA. Aujourd'hui, l'énergie du Mali, EDMSA, traverse une zone de turbulence à cause des impayés des factures de certains partenaires. Pour la seule société Estar Oil, EDMSA lui doit plus de 36 milliards de francs CFA dans le cadre des contrats de fourniture de produits pétroliers. Heureusement que le nouveau directeur général Kouressi Konaré s'est engagé à régler cette note très salée sur une période bien déterminée allant d'août 2022 à juillet 2023. D'ores et déjà, la société a payé 5 milliards de francs CFA à la fin du mois d'août 2022. Rappelons qu'en 2014 et en 2019, Star Oil et EDMSA ont conclu deux accords de fourniture de produits pétroliers. Actuellement, les contrats entre les deux parties ont expiré, mais l'argent dû n'est pas totalement recouvré par Star Oil. Toutefois, malgré la nécessité pour les entreprises de disposer en permanence de liquidités, les deux parties ont mis en avant le dialogue constructif en cette période de disette financière. Le Sénégal compte collaborer avec la Pologne dans le domaine de l'hydrocarbure. Je rappelle que la Pologne a dans son pays le fameux chantier naval Gdańsk et nous avons beaucoup à apprendre de ce pays. Nos deux gouvernements vont examiner plus en détail tous ces volets pour voir comment allouer la ligne de crédit de 100 millions de dollars que la Pologne a mise à la disposition du Sénégal en guise de prêt et voulons aussi collaborer dans le domaine de l'hydrocarbure dans la perspective de l'exploitation de ressources de gaz et de pétrole au Sénégal à compter de 2023. C'est le chef de l'État sénégalais Macky Sall qui a fait l'annonce jeudi 8 septembre 2022 à l'occasion de la visite au Sénégal de son homologue polonais Andrzej Duda. Après leur tête-à-tête au Palais de la République, les deux chefs d'État ont tenu un point de presse. À l'issue de ce rendez-vous de Dakar, les deux pays se sont engagés à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'assainissement et la formation maritime. L'industrie extractive en Guinée est un marché ouvert et très rentable. Souvent qualifié de scandale géologique, la Guinée regorge d'importantes ressources extractives prisées par les industriels. Une activité florissante dans le pays en témoigne Hava Kaba, membre associé de la société guinéenne de terrassement qui a à son actif la réalisation des routes et la production de minerais dans différentes régions du pays. L'ingénieur civil et entrepreneur exerçant dans l'industrie extractive se prononce également sur le forum Afrique-Caraïbes sur l'investissement et le commerce auquel elle a participé. La Gédise produit des vêtements made in Bénin. Le Bénin se révèle au monde grâce à la transformation industrielle en cours dans la zone économique spéciale de Glo Jigbezé Gédise. Des chemises made in Bénin et plusieurs autres vêtements ont été confectionnés à partir du coton béninois au sein de la zone économique spéciale de Glo Jigbezé. Le Bénin amorce ainsi la marche pour le changement de son statut d'exportateur de ses produits locaux pour miser sur une transformation sur place. En effet, sur 315 000 tonnes de fibres de coton produites par an, seulement 3 000 tonnes sont transformées localement, soit environ 1% de la production annuelle nationale. Les usines installées dans la zone économique spéciale de Glo Jigbezé permettront d'augmenter la part de la fibre de coton transformée de 1% à 12,7% par an, selon les projections dans le domaine du textile. Et les premiers vêtements made in Bénin fabriqués à base du coton 100% sortent déjà des unités de production textile de la zone économique spéciale de Glo Jigbezé. Cette zone industrielle a été construite pour faire du Bénin un hub industriel et d'assurer la transformation locale des matières premières agricoles. En Gambie, un accord a été conclu pour une stabilisation des prix du carburant. Le gouvernement gambien a tenu une réunion avec les sociétés de commercialisation du pétrole et a ordonné une reprise de la vente du carburant dans les stations-service dans le pays. Un communiqué du gouvernement gambien publié le 3 septembre 2022 a précisé que les prix de l'essence et du diesel restent inchangés. Selon le porte-parole du gouvernement gambien et conseiller du président pour la diaspora Ibrima Sankaré, le gouvernement du président Adama Barrow a, de janvier 2022 à ce jour, subventionné le carburant à au moins 1,3 milliard de dalassis afin d'aider à stabiliser les prix. À l'issue des dernières réunions et négociations avec les sociétés de commercialisation du carburant, le gouvernement a injecté 18 millions de dalassis de subventions supplémentaires. Le gouvernement dit s'être engagé à faire en sorte que le carburant soit accessible et rentable pour le public. L'initiative prise par le gouvernement est intervenue après une